Bonjour à tous et bienvenue dans ce 49e épisode des Clairvoyants. Je suis de retour, j'ai rejoint donc mes amis Fox et Archéon qui ont tenu la boutique le mois dernier, ou il y a deux mois plus exactement, parce qu'il n'y a pas eu d'émission au mois de juillet. Salut Fox.
Salut Fasque, bon retour.
Salut Thomas.
Salut tout le monde.
Alors on a décidé de faire un petit épisode de vacances, histoire de marquer le coup, de montrer qu'on était toujours là, mais on va pas se voiler la face, il n'y a pas grand chose de neuf à se mettre sous la dent ce mois-ci. Les news ont été quand même assez rares, et puis à part Ant-Man and the Wasp qui est sorti le mois dernier, dont on va pouvoir parler un petit peu tout à l'heure, il s'est pas passé grand chose du côté du MCU. On parlera bien évidemment de l'affaire James Gunn, c'est quand même la grosse actu du moment. On fera un petit focus sur le Quantum Realm, justement en lien avec Ant-Man and the Wasp, pour vous expliquer un peu ce que c'est dans les comics, et vous verrez que c'est pas très très simple. Et puis voilà, comme d'habitude, petit débat, on parlera notamment du rachat de la Fox par Disney, c'est de voir un peu ce que tout le monde en pense ici chez les clairvoyants, et puis on terminera bien évidemment par le courrier. On rappelle peut-être en deux mots ce qu'est le MCU, Fox.
C'est le Marvel Cinematic Universe, qui regroupe les films de Marvel Disney, les séries ABC, les séries Netflix, les nouvelles séries qui sont sur Hulu, et toutes ces séries qui sont la propriété de Disney, et ceux qui vont bientôt revenir dans leur escarcelle.
Voilà, peut-être, on en reparlera tout à l'heure. Et on va commencer tout de suite avec un petit round-up des news, notre section True Believers.
I wouldn't say I'm a true believer.
True Believers, notre section de news en rapport direct avec le MCU. On va commencer bien évidemment par Ant-Man and the Wasp. Tout le monde l'a vu ici?
Oui.
Yep.
Ok, alors on va faire une petite critique minute. Hein. Moi, j'en avais déjà parlé sur Twitter. Ça reste du même niveau que le premier. Voilà, moi, je me suis bien marré. Ça faisait une petite détente après la lourdeur et la noirceur d'Infinity War. Même si, on en reparlera tout à l'heure, il y a une scène post-générique qui laisse quand même entrevoir des choses pas très très cool pour Scott Lang. Voilà, moi j'ai trouvé que c'était plutôt malin, que c'était une bonne suite dans le sens où ils ont réussi à aller un petit peu plus loin dans les délires, notamment les délires autour des tailles, les changements de taille. Je trouvais que c'était plutôt smart ce qu'ils avaient fait de ce côté-là. Et puis voilà, on s'éclate bien pendant 2 heures, on en ressort avec un gros sourire. Et c'est tout ce que je demandais finalement au film. Je sais pas ce que vous en avez pensé, vous Thomas, peut-être d'abord.
Moi j'ai bien aimé. C'est comme tu disais, ça rafraîchit un peu après le gros truc qu'on s'est bouffé avec Infinity War.
Voilà.
Ça a pas été survendu, c'est rigolo, ça, tu passes un bon moment. Les vannes sont bien écrites. Enfin, je pense à la scène où Scott prend le personnage de Janet, c'est assez rigolo. Mais il avait vendu en palette cleanser et c'est exactement le taf que ça a fait. Donc moi, je suis très content.
Et toi, Fox?
Alors j'ai bien aimé, j'ai vraiment bien aimé. J'étais content de voir Najon Kamen dans le rôle du fantôme. Parce qu'au final, c'est une réécriture du personnage qui est très différente, certes, mais les effets sont cool. On quitte le film de Heist classique pour passer sur une sorte de mélange de braquage à l'italienne et de... C'est très braquage à l'italienne, quand même.
Ouais, et puis moi, j'ai trouvé qu'il y avait un côté finalement très antithèse d'Infinity War, dans le sens où Infinity War a vraiment perverti les codes du film de super-héros pour faire du Big Bad, en fait, le héros du film. Et ici, en fait, on se retrouve dans un film où finalement, il n'y a pas vraiment de méchant, en fait. Personne n'est vraiment un bad guy, en fait. Sans spoiler le film, il y a pas vraiment de... On pense au début qu'il y a effectivement une menace, mais qui n'est pas vraiment une menace, finalement.
On est dans les zones de gris, on est dans la nécessité, c'est ça qui est intéressant, c'est amener le prisme de... c'était déjà amené plus ou moins dans Infinity War, parce que Thanos a une vision... Qui est très utilitariste de l'univers, et là on est dans une autre vision, dans la fin, on va dire la fin justifie les moyens, et cette nécessité elle est facilement comprise, elle est bien expliquée aussi. Donc moi j'ai bien kiffé.
Donc voilà, petit point sur Ant-Man and the Wasp. Si vous ne l'avez pas encore vu, foncez, franchement ça vaut le détour. On va parler de ce qui occupe beaucoup le MCU et Marvel Studios en particulier en ce moment, c'est l'affaire James Gunn. Petit récap, donc il se trouve que James Gunn a tweeté il y a quelques années des choses qui sont relativement discutables, on va dire. Et ça a été mis à jour par un monsieur de la faction la alt-right, comme ils appellent ça aux États-Unis, hein, donc l'extrême droite américaine. Il faut savoir que James Gunn est un fervent opposant à Donald Trump. Il s'est pas caché de ce qu'il en pensait, de ce qu'il pensait de la politique du président américain depuis son accession au pouvoir. Ça a toujours été un gros défenseur des démocrates et plutôt de l'opposition en fait à Donald Trump. Et puis ça, évidemment, ça lui est retombé un peu sur le coin de la gueule. Et tout part de ce fan des théories de la conspiration, Mike Cernovich, en fait, qui a donc pointé du doigt ces tweets de James Gunn qu'il avait écrit entre 2008 et 2012. Et c'est ce qui a amené donc Disney à prendre la décision assez rapidement, d'ailleurs, de couper les ponts avec lui. Donc il a été viré du prochain Guardians of the Galaxy Volume 3, mais surtout, et c'est là où ça pose problème pour Marvel Studios, c'est qu'il était aussi le chef, on va dire, de tout le pan cosmique de l'univers Marvel au cinéma. C'est lui qui était supposé superviser un peu tout ça, et comme on sait que post Phase 3, Marvel va quand même aller très très fort dans le cosmique, on parle notamment des Eternals, ça pose un petit problème. Alors juste pour résumer un peu, il y a eu pas mal de voix qui se sont élevées contre cette décision, notamment Dave Bautista, qui a été un des plus vocaux, on va dire.
Tout le cast
qui lui a montré son soutien, mais c'est surtout Bautista en fait qui a vraiment dit, moi, si ça se passe comme ça, si on n'utilise pas le scénario de James Gunn, moi je me barre.
Dès le départ il était vachement vocal.
Ouais, il a été vachement vocal. Voilà. Et puis bon, il y a eu plein de soutiens aussi dans le monde du cinéma, notamment de Lloyd Kaufman, mais aussi de Justin Roiland, qui est le créateur de Rick and Morty, Jim Starlin, Michael Ian Black, Mike Colter, Patton Oswalt, Selma Blair. Enfin, il a eu un paquet de gens derrière lui. La presse aussi s'est mise du côté de James Gunn, et notamment les sites Collider ou encore The Independent ou Vulture, qui sont quand même pas des petits sites. Il y a des rumeurs qui diraient que depuis quelques jours, a priori depuis le début du mois d'août, Marvel via Kevin Feige serait en train de négocier avec Disney pour essayer de remettre Gunn dans la boucle, et probablement juste du coup pour Guardians 3, pour qu'il puisse au moins finir sa trilogie, et quitte à ce qu'après voilà il se sépare en bon terme. Gunn a relativement bien pris la décision, on va dire, et puis surtout derrière il s'est immédiatement fait courtiser non seulement par la Warner mais par aussi plein d'autres studios, gros studios de cinéma, donc on n'est pas très inquiet pour sa carrière, mais c'est effectivement un petit peu dommage de se dire que suite à cette affaire un peu étrange, et puis surtout cette volonté donc de Mike Cernovich de vraiment mettre Gunn dans l'embarras, parce que il s'était montré un fervent défenseur de tout ce qui allait à l'encontre de Donald Trump.
Faut rappeler que Cernovich, désolé du terme, mais c'est un gros sac à merde nazi, de
tout
base.
Tout à fait. Oui.
Et il est allé plus loin que déterrer des tweets. Il est allé les chercher. Certains avaient été effacés depuis il y a très longtemps. Mm-hmm. Il est allé les chercher sur ce qu'on appelle Internet Time Machine, en fait, qui est archive.org. Donc le type a quand même, c'est une entreprise volontaire de destruction. Et je note quand même le manque de colonne vertébrale de Disney US pour un tweet qui a été effacé et sur une blague qui est dans un contexte où, on rappelle, James Gunn est un auteur de films de genre. Le mec, il a fait 15 ans, 20 ans de sa vie, il a fait que du gore, que des trucs super crades.
Non, puis c'était il y a 10 ans, quoi. Enfin,
et il a un humour super crade, et tu vas reprocher des blagues d'il y a 10 ans dans ton entreprise. Je veux dire, allez chercher mes tweets, allez chercher les tweets de Thomas ou de Fask. Il y a 10 ans, on a tweeté de la merde, hein. On était dans les premiers sur Twitter, on en a tout. Oui, bon, pareil. Je m'en bats les couilles, alors là, mon pauvre. En plus, on est pris en audio. Donc c'est encore
ce qui me donne un tout petit peu d'espoir, c'est que je sais à quel point Disney déteste la mauvaise publicité. On rappellera pas l'affaire Escape from Tomorrow. On vous invite à aller lire ça sur Wikipédia. Vous verrez, c'est assez passionnant. On sait que Disney déteste par-dessus tout la mauvaise publicité, et que là, pour le moment, ils sont en train de se prendre quand même un gros gros bad buzz.
C'est ce qui les avait fait réagir super vite, ce qui voulait éviter justement de se reprendre les tweets dans la gueule. Et au final, ils ont pris encore plus gros derrière.
C'est ça. Ouais. Donc voilà. On espère qu'Alan Horn va trouver un terrain d'entente avec Kevin Feige, et que ça va leur permettre donc, comme je disais tout à l'heure, au moins de remettre Gunn en place pour qu'il finisse sa trilogie Guardians, quitte à ce qu'après il se sépare en bon terme et que Gunn puisse poursuivre sa carrière. Mais on n'a pas encore plus d'infos. J'espère que ça va se débloquer assez rapidement, parce que quand même je crois que le tournage de Guardians 3 devait commencer dans pas très très longtemps, ce qui veut dire qu'ils sont probablement déjà en phase de pré-production. Alors effectivement, on a tout de suite pensé à Taika Waititi pour prendre la relève. C'est vrai qu'il avait bien assuré sur Ragnarok, et qu'il avait vraiment bien saisi cet esprit cosmique instillé par James Gunn dans les premiers Guardians, donc on verra un peu ce que ça donne. On y reviendra probablement dans les prochains épisodes des Clairvoyants, quand on aura un petit peu plus d'infos. On va va passer aux vraies news maintenant, avec des news du côté de Spider-Man Far From Home, qui est donc le titre officiel qui a été confirmé par Kevin Feige de la suite de Spider-Man Homecoming. Quelques nouvelles de casting qu'on va passer assez vite, donc parce qu'on ne sait pas qui ils vont jouer, donc ça n'a pas grand intérêt, mais donc J.B. Smoove, Numanakar et Remy E ont été annoncés au casting, et puis surtout, plus important, le retour de Nick Fury et Maria Hill, visiblement dans un rôle quand même relativement important. Plutôt chouette ça, non?
C'est cool de voir une Fury et Hill de toute façon.
Ah, moi je suis content de les revoir, mais j'aurais préféré que ce soit pas annoncé. Après, c'est pas de leur faute, parce qu'il y a des images, des photos de set qu'on fuité. J'aurais préféré qu'ils soient pas annoncés. Autant pour les gros persos post-Infinity War, t'es obligé de le dire, Black Panther, etc. Il y a des films qui vont arriver. Nick Fury et Maria Hill, j'aurais préféré qu'ils le gardent sous le coude, quoi.
Je serais pas étonné d'apprendre que ces infos viennent de Sony, en fait. Faut rappeler que Marvel, à la base, avait pas l'intention du tout de communiquer sur la suite de Spider-Man, justement pour garder l'effet de la fin d'Infinity War, et que c'était Sony qui avait très très vite annoncé qu'il y avait une suite, qu'il y avait déjà une date, etc. Donc voilà, il y a
Et c'est Tom Holland qui a lâché le nom.
Et c'est Tom Holland qui a lâché le nom une fois encore. De plus. Donc encore des petits problèmes de communication entre Marvel et Sony, et puis surtout, mais baïonner Tom Holland, quoi, parce que là, enfin maintenant il en joue beaucoup, hein. Il a balancé quelques faux tweets, quelques fausses vidéos, etc. Il y a pas longtemps, justement, je pense qu'il s'amuse un peu
c'est
aussi
la
avec ça.
Spoil machine.
Ou alors ils font la technique de noyer les vraies infos, c'est les fausses.
Ou alors faut lui coller Benedict Cumberbatch. Faut voir que Cumberbatch avait lu tout le temps, en fait.
Alors quelques news du côté de Captain Marvel, puisque le tournage est enfin terminé, donc ça veut dire qu'on va rentrer en phase de post-production et que donc probablement on devrait plus trop tarder à avoir un premier teaser trailer. On en parlait tout à l'heure en antenne. Le film sort en février, donc à mon avis septembre-octobre, on devrait commencer à avoir les premières images. Je suis très très impatient de voir ce que ça va donner, ne fût-ce que pour avoir une impression, en tout cas une idée de ce que sera le ton du film. On sait qu'ils ont pas mal parlé de comédie. On sait que ça se passera dans les années 90, donc voilà, tout ça mis ensemble, je suis vraiment curieux de voir ce que ça va donner. Donc probablement un trailer, ou en tout cas un teaser trailer très bientôt. Et puis des news du côté de Black Widow, puisqu'on a appris que ça y est, ils ont choisi enfin une réalisatrice pour le projet, une certaine Kate Shortland, que moi je ne connais pas du tout, qui a fait un film qui s'appelle Lore, qu'il faudra donc que j'aille voir. Je sais pas si le nom vous est familier, vous?
Non, enfin de nom, mais je n'ai pas vu le film encore.
Non plus, quand ils avaient annoncé le nom, j'ai regardé ce qu'elle avait fait et j'ai vu aucun de ses films.
Ouais, souvent avec Marvel, hein, c'est des réals qui sortent un peu de nulle part, je dis pas ça de manière péjorative, hein, mais c'est souvent des petits réalisateurs dont on n'a pas vraiment entendu parler, hein. Souvenez-vous, Taika Waititi, à part What We Do in the Shadows, qui avait quand même plutôt fait parler de lui, le reste, on n'était pas trop au courant. Mais donc voilà, le projet a l'air très concret, on attend maintenant des dates pour tout ça, on espère qu'on aura bientôt des news, maintenant que l'effet Infinity War est retombé et que, le Blu-ray est sorti, donc, tout le monde, normalement, a dû pouvoir voir le film, on va je pense commencer à avoir des infos sérieuses sur la suite, non seulement sur Captain Marvel, sur Infinity War partout, enfin le Avengers 4, et puis bien évidemment sur la suite, la suite et la pré-phase 3 en fait, dont on n'a pas encore vraiment beaucoup d'infos, en dehors de donc Spider-Man Far From Home et de ce projet Black Widow. On va passer du côté de la télé très vite. Iron Fist, premier teaser de la saison 2 est sorti, et on le voit enfin avec son masque. Alors je veux pas vous cacher que moi je suis pas super emballé. Je sais pas ce que vous en pensez, mais ça a l'air moins pire que la première saison, ça sera difficile de faire pire, mais ça reste quand même encore, je sais pas, j'ai l'impression qu'on passe encore une fois à côté du perso, j'ai trouvé ça assez mou, et le masque, je suis pas convaincu, je sais pas ce que vous en pensez les gars, mais... le soupir qui en dit long.
C'est Danny, quoi, enfin, si tu veux, j'ai un amour incroyable pour Danny Rand, mais dans la version Netflix, j'ai quand même envie de lui mettre des grosses patates de forain dès qu'il ouvre, donc j'espère qu'il va se durcir un peu. On l'a vu dans les dernières séries Netflix, notamment Luke Cage, où il avait l'air de s'être un petit peu endurci, et il avait l'air un peu moins ouin-ouin, hein, faut bien le dire. Hein.
Ouais, je sais pas, moi je serais d'avis qu'il laisse tomber Luke Cage et Iron Fist et qu'il groupe les deux dans une série Heroes for Hire,
c'est exactement ce que j'allais dire. C'est après Luke Cage saison 2 et les premières images d'Iron Fist, pour moi faut laisser tomber les deux et récupérer Misty et Colin et faire un vrai Heroes for Hire avec les quatre.
Bah, surtout que le seul épisode qui moi m'a vraiment plu dans la saison 2 de Luke Cage, on y reviendra tiens d'ailleurs parce qu'on en a pas beaucoup parlé. C'était l'épisode avec Iron Fist justement, où je trouvais qu'il y avait une chouette dynamique, et c'est ce truc-là, à mon avis, qui devrait exploiter, laisser tomber les deux séries indépendantes, d'autant plus que, enfin, voilà, je ne comprends toujours pas la fin de la saison 2 de Luke Cage, quoi. Qu'est-ce qui s'est passé dans la tête des scénaristes pour que tout à coup, ils nous fassent un espèce de plot twist ultra bizarre où, en gros, ils nient tout ce qui vient de se passer, quoi. Enfin, il n'y a aucune cohérence par rapport au personnage. Je sais pas du tout pourquoi tout à coup, il s'est retrouvé dans la peau d'un espèce de bad guy. Enfin, c'est très bizarre. Pour ceux qui ont vu la série, comprendront de quoi je parle. Hein. C'est vraiment les 5 dernières minutes du dernier épisode où tout à coup, on dit à Luke Cage, bah, si tu veux, tu peux récupérer la boîte, le club, et tu peux en faire ce que tu veux. Et il fait, non, je vais la brûler. Et après, on a des images de Luke Cage en patron du club avec un côté très mafieux, très
pimp.
Ouais, voilà, c'est ça, qui correspond pas du tout à ce qu'on nous a fait, ce qu'on nous a mis en place pendant toute cette saison 2. Donc, très curieux de savoir où ils vont aller. Après, ils vont peut-être nous dire que tout ça n'était qu'un rêve, ou je ne sais pas, mais.
Ça pourrait être ça, hein. Ça pourrait être ça, parce qu'on a la sorcière aussi pas loin, on sait jamais ce qui peut se passer, hein. Mais on débriefera après.
Ouais, on débriefera un de ces quatre. Et puis, très vite, quelques annonces encore sur la télé avec donc la sortie de la saison 2 de Runaways le 21 décembre sur Hulu. La série sortira donc en intégralité, donc tous les épisodes d'un coup. Agents of S.H.I.E.L.D. revient, on le savait déjà, c'était l'année prochaine, mais là c'est confirmé pour juillet 2019 pour la saison 6. Cloak & Dagger, la deuxième saison est confirmée, mais on n'en sait pas plus pour le moment.
Juste pour dire, bonne surprise d'ailleurs, on n'arrêtait pas de dire que... Ouais. On serait pas public, et au final, pour l'instant, c'est la série Marvel que je préfère.
Bah, ça m'a plus convaincu que Runaways, ouais, tout à fait.
Moi, j'ai droppé les deux. Faut que je finisse Cloak & Dagger, mais j'ai pas la force.
Cloak & Dagger, donc deuxième saison, a priori, pour déjà la fin de l'année, si j'ai bien compris. Donc, on aura une date, on vous la communiquera. Et puis, The Punisher, la saison 2 est bouclée aussi, mais là, on n'a pas encore de date de diffusion. J'imagine que ce sera à peu près dans les mêmes eaux que la saison 1. C'était quoi? C'était octobre, c'est ça, l'année dernière, ou il y a 2 ans, là? Je sais plus.
Non, c'était en mars cette année.
Ok, bon, ça fait un peu loin quand même ça. Bah, on verra. Dès qu'on a plus d'infos, en tout cas, la saison est dans la boîte, donc maintenant ils peuvent la sortir à peu près quand ils veulent. Et c'est avec ça qu'on va clôturer les news qu'on vous avait promis un peu légères. Et je vous confirme qu'il s'est pas passé grand chose depuis le dernier épisode. On va passer tout de suite à notre section récap theory crafting avec Avengers. C'est pas l'heure. The Tesseract has shown me so much. It's more than knowledge. It's truth. Avengers, c'est pas l'heure, notre section récap, theory crafting et spéculation. Ça va aller assez vite aussi ce mois-ci parce que on n'a pas grand chose de neuf à débattre en dehors de la post-credit scene, la scène post-générique d'Ant-Man and the Wasp qui relance un petit peu la polémique autour du Quantum Realm, et puis on fantasme de nouveau beaucoup sur le voyage dans le temps, ce qui me fait un peu peur. Donc on va juste refaire un tout petit peu le point là-dessus. Qu'est-ce qu'on peut déduire en fait de cette scène post-générique? Donc on a appris dans Ant-Man and the Wasp que le film se déroule de manière parallèle aux événements d'Infinity War, et donc il y a cette scène post-générique où Scott Lang est dans le Quantum Realm et où il se retrouve prisonnier parce que les trois personnes qui supervisaient l'opération, à savoir Janet Hope et Hank Pym, sont victimes du snap en fait, et donc il se retrouve coincé dans la Quantum Realm. À votre avis, où est-ce que ça va tout ça?
Ça va qu'à un moment il va falloir qu'il sorte va falloir qu'il arrive à communiquer, mais il est déjà sorti du Quantum Realm en fait.
Oui, c'est vrai qu'il était déjà sorti.
Déjà sorti en utilisant l'accélération de Gigantic Man en fait. Mm-hmm. Donc il va réussir à trouver un moyen de ressortir de ce merdier, et puis il va aller aider les autres. Mais de base, on n'a toujours pas la certitude que ce qui se passe dans le Quantum Realm est pas déphasé du temps par rapport à la réalité en fait.
Mmh, ouais, il y a ce côté.
C'est ce qui pourrait l'avoir protégé de l'effet des pierres de l'infini aussi.
Ouais, tout à fait. Il y a beaucoup de théories aussi qui tournent, comme je le disais, autour du voyage dans le temps. Moi, c'est vraiment un truc qui me fait très très peur. Je déteste le voyage dans le temps qu'on sait mal gérer dans les films, et surtout dans les blockbusters où ça sert surtout à faciliter l'écriture en fait. Maintenant, quand même, Feige et compagnie ont l'air de dire que le Quantum Realm aura une importance dans Avengers 4, donc à quel niveau, c'est ça que je me demande. Est-ce que ça va pas plutôt être du côté de la Soul Stone? On sait que la Soul Stone, on a confirmé qu'elle avait un univers à l'intérieur de la, enfin qu'il existait un univers à l'intérieur de la Soul Stone, donc comme dans les comics. Est-ce que le fait de pouvoir aller dans le Quantum Realm, et donc dans tout ce qui est microscopique, serait la la porte d'entrée en fait vers la Soul Stone, qui permettrait donc aux Avengers de, d'une certaine manière, de réparer ce qu'a fait Thanos dans Infinity War. Moi, c'est ce qui me semble le plus probable, plus que le voyage dans le temps. Je sais pas ce que vous en pensez.
Moi, je vois une autre théorie qui vient des comics aussi, et notamment qui est utilisée pas mal chez DC. Mais c'est dans les comics chez Marvel, on parle de Microverse. Il y a un truc qui sont les Pocket Dimensions chez DC et qu'on retrouve sous une autre forme aussi chez Marvel. La Soul Stone pourrait contenir sa Pocket Dimension qu'on appellerait son propre Microverse, si tu veux. Et il faudrait, le seul moyen d'y accéder serait de passer par une brèche dans un autre Microverse, tout simplement. Ouais.
En fait, c'est exactement le cas chez Marvel aussi, en fait.
Tu vois, oui, voilà, t'as les Pocket Dimensions.
Pendant longtemps, ils ont considéré que le Microverse, c'était un univers entre les atomes, en fait. Et ça a été corrigé pas mal de fois en expliquant qu'en fait, non, c'est juste que c'est des dimensions, d'autres dimensions par lesquelles on accède, soit par la magie, on verra après dans le focus d'ailleurs, soit par la magie, soit en rétrécissant assez pour arriver sur les portails qui permettent d'y accéder, en fait. Donc, c'est pour ça, peut-être que, comme on disait tout à l'heure, Scott a pas subi le snap. Mm-hmm. Et ça peut être aussi la source d'une autre, de quelque chose qui pourrait les aider pour Avengers 4 ou n'importe quoi.
Je pense que ça peut être une des trames, en fait, un des arcs d'Avengers 4, ça va être de se dire, ok, on a besoin de quelqu'un qui peut voyager dans ces univers microscopiques pour justement rentrer dans les Soul Stones et... Alors après, y faire quoi? Je sais pas encore trop. Est-ce que c'est là où sont toutes les âmes des gens qui ont été snappés? Est-ce que c'est par là qu'ils vont pouvoir réussir à, comme dans les comics, désharmoniser en fait les pierres, hein, puisque c'est apparemment la Soul Stone qui permet d'harmoniser toutes les pierres entre elles. Donc il y a plein de possibilités et l'idée pourrait être dans ce cas-là d'essayer de retrouver Scott Lang en se disant, bah tiens, où il est? Il a disparu. Étant donné qu'a priori il y a pas de, enfin les Avengers sont pas au courant qu'il est prisonnier dans le Quantum Realm, ça pourrait faire une bonne partie de son arc à lui, en fait, dans Avengers 4, et ça pourrait être effectivement une des solutions techniques pour récupérer ou pour en tout cas annuler l'effet du snap de Thanos dans Infinity War. Enfin, moi c'est comme ça que je le vois, en tout cas pour le moment, en tout cas avec les infos qu'on a.
C'est un arc qui me plairait bien aussi, un arc solo de Scott qui fait le lien justement entre notre monde à nous et la merde qui s'est passée, et les autres Pocket Dimensions, en fait, où il pourrait retrouver il pourrait retrouver les âmes de ceux qui ont disparu. C'est pas ce qui m'intéresse le plus. Ce qui m'intéresserait plutôt, c'est qu'il trouve des nouveaux, enfin pas des nouveaux persos, mais des items ou des gens ou n'importe, une raison qui pourrait rollback en fait ce qui s'est passé après le snap. Ça me chaufferait bien, ça.
Tout à fait, ouais, moi j'aime bien aussi. Et puis il y a toujours l'inconnu Hawkeye, hein. On sait qu'il va avoir son arc aussi, que ce sera probablement l'arc Ronin, donc comment lui va interagir avec les Avengers? Est-ce qu'il va se transformer en bad guy? Est-ce que ça va être un obstacle à la résolution du problème? Ou bien, je sais pas encore trop quel rôle il va jouer. A priori, il a un rôle important dans le film. C'est en tout cas ce qui nous a été vendu par les frères Russo. Donc voilà. On a finalement pas beaucoup plus d'infos, en fait, que ce qu'on avait il y a deux mois à la sortie d'Infinity War, hein, en dehors de cette scène post-générique d'Ant-Man and the Wasp qui fait le lien avec Infinity War. Il n'y a pas eu grand chose d'autre dans le film où on a pu se dire, tiens, ça pourrait être utilisé plus tard.
Il y a juste la phrase de Janet à un moment qui parle de voyage temporel à travers le Quantum Realm, et ça, comme on disait plus tôt, c'est...
Ouais, c'est dangereux. Hein,
c'est dangereux. Vraiment, elle le dit vraiment texto, elle dit, ouais. Y a des passages, y a des couloirs du temps dans le Quantum Realm, mais c'est...
Je suis toujours un peu... Enfin, après, encore une fois, on n'est pas à l'abri d'une bonne surprise. Hein. On était quand même aussi... on était bien hypé pour Infinity War, mais on avait quand même aussi tous très peur qu'ils se loupent et qu'ils nous fassent finalement un truc qui n'était pas à la hauteur de nos attentes. Ils ont, en ce qui me concerne, en tout cas, surdépassé mes attentes, donc tout va bien. Et je me dis que, voilà, s'il y a bien un duo de scribe qui est capable de faire du voyage dans le temps quelque chose d'intéressant, c'est bien McFeely et son acolyte. Mais Marcus, voilà, je retrouvais pas son nom, Marcus et McFeely. Donc on verra. Mais c'est vrai que le côté, on va dans le passé, on efface tout. J'ai lu des théories aussi sur un voyage dans le temps qui permettrait d'aller récupérer les pierres à d'autres époques, en fait, et donc de construire une espèce de gants bis, ce qui rejoindrait les déclarations de Feige il y a quelques années où il disait qu'il y avait deux gants dans l'univers, même si tout ça a été retcon dans Ragnarok. Enfin, ça commence à devenir compliqué pour le coup, et je me méfie vraiment parce que en termes de narration, je trouve que tout ce qui est voyage dans le temps, réécriture du passé et tout, ça a toujours tendance à déforcer complètement le propos. Comme on sait déjà que les personnages vont revenir vu qu'ils ont leur franchise qui vont continuer, ça rajouterait encore une pierre à l'édifice du ouais, mais finalement tout ça pour ça. Voilà, moi je serais un peu je serais un peu déçu. Donc j'espère que ça va pas trop dans cette direction là, ou que si ça va dans cette direction là, en tout cas on sera agréablement surpris par la manière dont c'est résolu. D'autres choses à ajouter par rapport à Avengers 4, vu les infos qu'on a depuis Ant-Man and the Wasp?
Je vous écoutais discuter et je me dis très clairement, très bêtement même, mais Scott est un braqueur. Mmh. Il faut un mec pour forcer les portes dimensionnelles et aller braquer. Il faut un mec qui pense différemment. Il nous reste que des héros canons, enfin les premiers quoi. Il nous reste quasiment que des vieux à part Rocket, Nebula et quelques nouveaux, tu vois.
Rocket qui est un fin stratège aussi, non? C'est quand même aussi...
Ouais, son... mais Rocket, mais oui, justement, Rocket et Scott Lang, Rocket au support technique avec peut-être Shuri si elle a survécu, parce qu'il doit rester du monde de Wakanda quand même, et Scott en mode, je vais aller braquer, et c'est le heist de l'univers. Le plus gros braquage de sa vie sera braquer les portes dimensionnelles. Et pourquoi pas choper un couloir du temps, non pas pour tout remettre carré et péter le scénario en mode bon non mais il s'est jamais rien passé, mais peut-être justement envoyer Scott Lang au moment où lui est dans le Microverse avec les autres et où il essaye de où il se démerde en fait avec Ghost et les autres, lui revenir en arrière pendant le combat contre Thanos ou à un autre moment pour, par exemple, je sais pas, sauver Vision ou récupérer les données de Vision qui ont été corrompues ou tout simplement changer la donne à un moment et une action précise qu'on aura vu dans le film mais qu'on n'aura pas compris à ce moment-là ou qui altérera un moment crucial du film, tu vois. Juste la petite pitchonnette qui fait changer les choses et où personne ne se rend compte de rien et hop, retour arrière, ça change pas vraiment le scénario mais il y a juste une petite intervention de Scott qui pourrait être voilà, on a heisté le temps, on a piqué une demi-seconde, une seconde de temps qui nous a permis de changer les choses. Parce qu'on sait qu'il y a une solution et que la solution c'était que Strange meure avec les autres.
Alors moi ça me fait penser à un truc dont on n'a plus trop parlé mais qui avait été déclaré il y a aussi quelques années quand ils ont annoncé en fait les premières annonces d'Infinity War. En fait je me souviens d'avoir entendu, alors je sais plus si c'est les frères Russo ou si c'est le tandem Marcus McFeely, mais en tout cas il y en a un des deux qui avait déclaré que Infinity War était un heist movie, et en y repensant et en l'ayant revu il y a pas très longtemps, j'ai pas la sensation d'avoir vu un heist movie. Alors est-ce que du coup au fur et à mesure du processus d'écriture, le côté heist aurait été transféré sur Avengers 4, ce qui du coup donnerait du sens à ce que tu dis effectivement d'envoyer un Scott Lang en duo avec Rocket pour récupérer le gant via des concepts de heist movie, donc de cambriolage. Ça pourrait être une des pistes aussi, effectivement via du coup le Microverse, enfin ce qu'on appelle le Quantum Realm dans le MCU. Ça pourrait être pour le coup assez intéressant. En tout cas moi ça me brancherait, ça me botterait beaucoup plus que du voyage dans le temps que je trouve quand même toujours un petit peu paresseux. Quoi. Enfin...
Surtout qu'avec Ant-Man and the Wasp, il y a un perso qui est introduit, c'est Ghost, qui a été réécrit, et qui, à la fin du film, et on ne sait pas ce qui se passe avec le snap, qui est mis de côté, et qui, à mon sens, est clairement écrit pour une utilisation... on se le met sous le coude, quoi.
Ouais, et, tout à fait.
On va s'en servir plus tard. Ouais. Si tu veux faire un heist movie avec, en mettant en avant Scott Lang pour récupérer n'importe quoi, avoir un perso à côté qui est intimement lié avec le Quantum Realm, mais qui peut déphaser pour aller n'importe
où, ça peut être sympa.
Il pourrait carrément remonter le temps pour aller la chercher, elle, parce qu'il a besoin d'un coup de main aussi.
Ouais, tout à fait. Bah, voilà,
parce qu'elle, elle peut déphaser, enlever le gant à Thanos, lui piquer la pierre, il se rendra compte de rien. Il n'avira même pas.
Je continue de préférer des solutions sans voyage dans le temps pour l'instant.
Ouais, pareil,
utiliser ce qu'il y a d'actuel et pas de voyage dans le temps.
Ou alors, s'il y a du voyage dans le temps, que ce soit, comme tu disais, Fox, quelque chose finalement d'accessoire et pas la trame principale, parce que ce sera vraiment décevant.
À mon sens, ce sera pas la trame principale, mais le fait de l'axer sur le rôle de Scott Lang, parce qu'il faut pas oublier, c'est Paul Rudd quand même, c'est un mec qui est mortellement drôle quand il veut et qui a l'un des gros ressorts comiques du MCU aussi, parce qu'on a les Guardians d'un côté, on a lui de l'autre. Ça permet de désamorcer aussi la situation et de le prendre avec légèreté et de pas appuyer sur le scénario tout du long, quoi.
On verra. En tout cas, si vous avez des idées, si vous avez envie de spéculer avec nous, n'hésitez pas à passer sur Geekzone dans les forums et venir en parler, venir proposer, suggérer vos idées de comment pourrait se dérouler Avengers 4 à partir des infos dont on dispose pour le moment. On va clôturer cette partie theory crafting ici. On relancera tout ça le mois prochain, probablement, j'espère, en tout cas avec plus de news. Et pour l'heure, on va se faire une petite pause musicale.
Jarvis, drop my needle.
« Jarvis Drop My Needle, une petite pause musicale tirée du MCU. Forcément, on va s'écouter un extrait de la bande-son de Ant-Man and the Wasp signé Christophe Beck, qui fait encore une fois un très très bon taf, outre le thème que je trouve déjà classique d'Ant-Man, qui avait bien marché dans le premier film. Il a vraiment exploré de nouvelles pistes qui sont plutôt sympas, et on va s'écouter un extrait tout de suite. Le morceau s'appelle Cautious as a Hurricane. Cautious as a Hurricane, extrait de la bande-son Ant-Man and the Wasp, c'était Christophe Beck.
I am MODOK. I am science. I am genius.
I am Science, la voix de notre cher MODOK qui nous rappelle que c'est l'heure de faire un focus sur un personnage, une organisation, un arc des comics, et cette fois-ci on va même parler d'un univers entier, ce qu'on appelle le Microverse dans les comics et qui a été rebaptisé pour des questions de droit Quantum Realm dans le MCU. Alors mon cher Fox, le Quantum Realm, qui est à l'origine de cet univers microscopique?
Ah, c'est encore une création du duo génial Stan Lee et Jack Kirby.
Décidément.
Hein, décidément, bah, ils ont un peu tout créé. Hein.
Stan Lee et Jack Kirby, donc évidemment à l'origine du Microverse, Quantum Realm, première apparition assez tôt en fait, dans les années 60, c'est ça hein, Fox?
1963, Fantastic Four numéro 16, la grande famille des super-héros.
Et a priori il y aurait même eu une autre version auparavant dans un vieux Captain America, donc en 43, mais on va pas en parler parce que c'est déjà assez compliqué comme ça. On en parlait avec Thomas tout à l'heure avant de préparer, en préparant l'émission, donc les Microverse en fait, on va pas se mentir, c'est des choses qui sont un peu des ressorts scénaristiques qui ont été utilisés de manière ponctuelle dans les histoires Marvel, dans les comics, et puis aussi comme tu le disais Thomas tout à l'heure hors antenne, pour faire faire des jouets. Il va falloir attendre une série particulière, mon cher Fox, pour commencer à en apprendre un tout petit peu plus.
C'est la série Micronauts qui va commencer à établir des bases du Microverse dans les comics et réunifier un petit peu tout ça.
Et au départ, donc, c'était un univers qui était... c'était quoi ? C'était du domaine de l'infiniment petit, c'est ça ?
C'était l'infiniment petit, et puis quand ils avaient besoin d'avoir un petit ressort scénaristique ou un placeholder pour faire une histoire, ils y rajoutaient. Le problème, c'est qu'à force de rajouter des trucs un peu décousus ou désunifiés, ils se sont dit, bon, faut qu'on fasse quand même quelque chose d'un peu stable et le remettre dans le canon global, que ce soit utilisé dans n'importe quelle série, et pour pouvoir rajouter des nouvelles aventures aussi, parce qu'à force d'aller vers l'espace, là, ben, on va vers l'infiniment petit pour changer un petit peu la donne.
C'est ça, donc en fait, au départ, c'était juste l'univers entre les atomes, et puis c'est devenu, par extension, une succession, en fait, un ensemble de dimensions parallèles auxquelles on peut accéder par la magie ou par en rétrécissant, en devenant tout petit, comme on l'a vu donc dans Ant-Man le premier et dans le deuxième aussi. Et donc là, ça permet d'accéder à des portails spécifiques qui permettent d'accéder donc à ces différentes dimensions. Probablement une des pistes pour Avengers 4, on en parlait il y a quelques minutes. On va essayer de faire un peu le point sur quelques-unes de ces dimensions, notamment une que Thomas a voulu pointer, qui s'appelle Mita.
Oui, alors Mita, c'est un micro-monde, donc c'est donc un univers particulier, et lui, c'est donc une planète, un petit monde, si tu veux, avec un gros problème de tyran, puisque le méchant Togaro et ses armées veulent complètement contrôler la petite planète, et donc pour la protéger, le roi, le souverain de Mita, va décider d'envoyer sa fille Diana sur Terre, pour être élevée dans une famille d'adoption et être protégé tout ce bordel. Il va falloir des années à Togaro, qui a pris le contrôle de ce petit micro-monde, pour la retrouver et attaquer la Terre et pour la récupérer et donc certainement l'épouser. Hein. On va pas vous spoiler, mais ça va attirer l'attention de duo de choc Captain America et Bucky Barnes.
Les bros,
qui vont se retrouver pris dans le conflit et puis ils vont débarquer sur Mita avec la princesse. Évidemment, ils vont pratiquer ce qu'ils savent faire le mieux, c'est-à-dire sauver la planète Mita. Ils vont mettre fin à l'empire de Togaro. Mais le problème, c'est que lui, il va envoyer la planète directement dans une étoile.
Ah ouais, sympa.
Puisque je ne peux pas régner, ben personne régnera à part des cendres, quoi. Il restera que des cendres. Du coup, ben les deux seuls survivants, en plus de Cap et Bucky, ce sera Diana, donc la princesse, et Aelma, qui est une autre habitante de Mita, qui vont rejoindre Cap et Bucky sur Terre et qui vont vivre une vie un peu différente mais un peu plus paisible.
Ouais, donc comme on le voit, c'est vraiment une excuse pour pouvoir explorer de nouveaux mondes sans avoir à rester dans l'univers connu. Mita en est un très bon exemple, je trouve. C'est voilà, cette possibilité qu'on a de plonger dans le Microverse pour créer de nouveaux univers, créer de nouvelles intrigues et servir donc de support scénaristique à d'autres histoires. Il y a évidemment une connexion très connue qui est celle qui est un peu problématique pour le MCU en ce moment, mais peut-être pas, on y reviendra tout à l'heure, c'est la connexion avec les Fantastic Four.
Eh oui, Fantastic Four et leur ennemi juré, le Docteur Doom, le roi du foot dive, il se battait avec eux, il a été victime d'un rayon rétrécissant qui le fait disparaître. Alors tout le monde le croit mort, mais en fait il a été transporté dans un système de planètes du Microverse qui s'appelle Subatomica. Évidemment, Docteur Doom, Big Doctor Doom, il va prendre le contrôle d'une des planètes, la planète Mirwood, et il va utiliser à son tour un rayon pour y emprisonner les Fantastic Four avant de les vendre comme esclaves à une race d'hommes lézards qui habitait sur une planète voisine. Évidemment, Docteur Doom fait pas dans la finesse. Il faudra attendre l'intervention d'Ant-Man pour libérer la famille la plus célèbre des comics et évidemment détruire l'empire montant de Docteur Doom et pour remettre un petit peu les choses dans la normale, quoi.
Voilà, peut-être un indice de ce qui se pourrait se passer, comme on en parlait tout à l'heure dans Avengers 4, hein, l'aide d'Ant-Man pour aller peut-être dans la Soul Stone, libérer que ce soit Gamora ou peut-être tous les autres persos qui sont peut-être prisonniers, on n'en sait pas encore plus. Et puis un autre univers qui est vraiment connu dans le Microverse, enfin plutôt une race, on va dire, on peut appeler ça comme ça, c'est les Micronauts.
Ça, c'est les Micronauts. Au sein du Microverse, il y a une petite planète qui s'appelle Homeworld, et il y a un certain Baron Karza qui va lancer un coup d'état et massacrer la famille royale. Évidemment, tu remarques qu'en ce moment, c'est très... Il y a une planète, il y a un méchant, il prend le contrôle.
Ouais.
Il va prendre donc évidemment le contrôle de Homeworld en offrant la vie éternelle aux riches, et les pauvres, il va conduire des expériences génétiques sur eux.
C'est un peu les Inhumans quand même, ça.
C'est un peu Inhumans aussi. Le commandant Arcturus Rann, de retour d'un voyage spatial à animation suspendue, va prendre connaissance de cette situation et va former un groupe de héros pour renverser l'empire de Karza, en fait, tout simplement.
Donc, les fameux Micronauts. Hein.
Et voilà, les célèbres Micronauts avec Biotch One, qui est un compagnon robotique qui a accompagné Rann dans toutes ses aventures et dans son exploration spatiale. Il y a Princess Marie, qui est la dernière survivante de la famille royale et accessoirement le love interest de Rann. Elle va prendre la tête de l'équipe plusieurs fois quand Rann ne sera pas sur le devant de la scène. Le gladiateur extraterrestre Acroyère, qui porte une énorme armure. Un certain Bug.
Ah, Bug.
Voilà, un petit voleur insectoïde qui va devenir le meilleur ami d'Acroyère et qu'on croisera chez les Guardians.
Ouais, c'est ça, c'est un des personnages que Gunn avait voulu placer dans les Guardians of the Galaxy version MCU et qu'il avait finalement dû laisser tomber. C'est un personnage qui était un peu redondant avec Mantis pour le côté visuel et puis ça commençait à faire beaucoup de persos verts en fait dans les Guardians.
C'est
donc
ça.
Il avait finalement laissé tomber, mais Bug est un Micronaut oui, à la base et qui va après rejoindre les Guardians of the Galaxy. Encore une fois, hein, on sent que Marvel était un peu à bout de souffle à ce moment-là. Hein. C'est quand même un peu une copie calque des Guardians, justement, hein, avec le même genre de personnages qui évolue dans leur univers, dans leur univers à eux, qui est différent de l'univers terrestre qu'on connaît, etc. Donc, ils ont une némésis aussi. Donc, c'est ce fameux Baron. Ils vont s'opposer à lui à plusieurs reprises. Et ils vont aussi faire des team-up avec d'autres héros de l'écurie Marvel.
Alors, ils vont faire plusieurs team-up, évidemment, bon, on sait que Bug, il est chez les Guardians, mais le reste des Micronauts, on va les voir principalement chez les X-Men.
D'accord.
Qui vont croiser assez souvent, et le but principal de cette licence, c'était la vente de jouets de marque Mego ou Mego. C'est comme les Lego, mais avec un M, et c'est très très moche. Et depuis, elle a navigué entre plusieurs éditeurs avant d'être plus ou moins abandonnée, parce que bon, voilà, c'est...
Oui, on sent le manque d'inspiration, ce que je disais. Hein, donc,
voilà. tu notes que les trois trucs, c'est le même setup, de choses près.
C'est ça.
Ça permet de détruire une planète sans casser les pieds de l'univers et de la continuité cosmique et ce genre de choses, quoi.
Alors, on va passer du côté des recommandations de lecture concernant le Microverse. Je sais, Thomas, que t'as galéré un peu parce que, c'est, comme on disait, disparate et puis ça a souvent servi de ressort scénaristique plus qu'autre chose. Il y a jamais vraiment eu de grosse cohérence du côté de cet univers-là, mais il y a quand même des arcs que tu voulais recommander, dont un arc des Avengers.
Alors, c'est les Avengers en volume 4, les numéros du 31 au 34, c'est la fin du volume. Ça se passe après tout ce qui est Dark Reign, Siege, Secret Invasion, etc. L'auteur, c'est Brian Michael Bendis, et au dessin, on a Brandon Peterson, pardon. Et grosso modo, après, à la fin de Secret Invasion, on pensait que Janet était morte, que The Wasp était morte, qu'elle s'était fait exploser en plusieurs petits morceaux, etc. Et les Avengers reçoivent un message, en fait, qu'apparemment, elle est pas morte, elle est enfermée dans le Microverse, dans le Quantum Realm.
Tiens,
elle est bien encore en vie, tout petit, c'est le pitch dit quelque chose, hein, c'est bizarre. on ressent quelque chose. Et donc, du coup, on a, pendant ces 3-4 numéros, on a la quête des Avengers pour aller sauver leur ancienne partenaire.
Ok, donc petite introduction au Quantum Realm, enfin au Microverse dans Avengers Volume 4, 31-34 de 2012. Du côté de trucs plus récents, il y a un nouvel arc de Ant-Man and the Wasp signé Mark Waid. Tiens, c'est marrant, j'en avais pas entendu parler, c'est bien ça?
Ah, c'est... Pour l'instant, c'est pas fou, mais c'est une chouette lecture, ça se passe bien. C'est encore en cours, hein, c'est pas fini.
D'accord.
C'est une mini-série qui a commencé il y a 3-4 mois maintenant, si je dis pas de bêtises, ils sont numéro 4, peut-être 5, remarque, peut-être que c'est fini en fait. Donc c'est une mini-série en 5 numéros, donc comme tu le disais, qui a été écrite par Mark Waid, et au dessin on a Javier Garon. On va pas se mentir, ça surfe pas mal sur la vibe du film en fait, pour essayer de faire une équipe, c'est purement marketing. À la différence que l'équipe du coup c'est pas avec Hope, c'est avec une autre Wasp qu'on a actuellement qui s'appelle Nadia Van Dyne, qui est aussi la fille de Pym et de Janet Van Dyne, qui est une super génie, etc., qui tient bien de son père. Le pitch, c'est d'aller récupérer Leng, qui est quelque part au bout de l'univers, et qui dit, bon, j'ai envie de rentrer chez moi, est-ce que tu peux me filer un coup de main et me téléporter, machin? Et, comme on le dit souvent sur YouTube, ça tourne mal. Et ils se retrouvent enfermés dans le microverse, en fait. Ils sont paumés dans un coin du microverse, ils savent pas où. Et ils tombent nez à nez avec une espèce d'entité un peu bizarre qui va parasiter Nadia, et du coup, ils doivent, leurs aventures commencent là, du coup.
Okay,
comme je disais, c'est pas fou,
plus,
mais ça, pour l'instant, je pense que c'est une des meilleures histoires actuelles qu'on a et qui décrit assez bien le microverse et comment c'est foutu, en fait. Donc, ça vaut le coup de le lire.
Voilà. Et puis, une recommandation que tu as marquée dans les conduites vraiment, vraiment pour les curieux, c'est les Micronauts de 79. Hein.
Bah, c'est la ligne Marvel, parce que Micronauts, en fait, c'est passé par Marvel, par IDW, par Image, par une tétrachier d'éditeurs qui voulaient éditer leur truc. Donc, à partir de 79, c'est la continuité Marvel. Si vous êtes vraiment chaud pour apprendre l'univers du Microverse, vous pouvez aller voir du côté du Micronauts. J'ai pas listé les auteurs et les dessinateurs, parce que ça a changé entre temps. Il faut juste garder en tête que c'est fait pour vendre des jouets, c'est pas vraiment foufou. Mais en termes de compréhension du Microverse et du Quantum Realm, toutes les planètes qu'il y a dedans, je pense que c'est la meilleure chose. C'est le plus complet. C'est un
peu l'encyclopédie du Microverse.
Bah, c'est les seuls à vraiment s'intéresser au truc, donc.
Ok. Alors voilà. Comme d'habitude, on vous balancera toutes ces recommandations de lecture avec les liens qui vont bien sur la news qui accompagne ce podcast. Et puis, pour l'heure, on va passer à notre rubrique débat Marvel Insiders. He's a spy. He's the spy. His secrets have secrets. Marvel Insider, c'est notre moment analyse débat. Alors c'est une question que vous nous posez régulièrement, j'ai envie de dire presque tous les jours. C'est un truc qui tourne beaucoup en ce moment aussi sur Reddit, hein, et c'est le rachat de la Fox par Disney. Je voulais juste qu'on en parle un tout petit peu pour avoir un peu votre sentiment sur la possibilité. Donc on sait que Kevin Feige a déjà déclaré que pour le moment c'était pas du tout dans les plans de rajouter des mutants, de rajouter les Fantastic Four, qu'ils allaient attendre que le deal soit finalisé avant de commencer à y réfléchir. Moi je soupçonne quand même que malgré tout ils sont déjà en train d'explorer quelques pistes. Est-ce que globalement vous pensez que c'est une bonne idée ou une mauvaise idée? En d'autres termes, est-ce qu'on a besoin des Fantastic Four et des mutants dans le MCU, sachant que introduire les mutants aujourd'hui après 10 années de films où on n'en a pas parlé une seule fois, ça va nécessiter quand même des artifices scénaristiques qui pourraient être un petit peu bof. Je sais pas ce que vous en pensez. Fox, on commence par toi.
Alors moi déjà, le rachat de la Fox par Disney à la place de Comcast, c'est un gros yé, évidemment. Parce que c'est Comcast,
clair.
Voilà.
Oui, Comcast, oui.
Je
Comcast, pense... on rappelle, c'est Universal. Hein, donc, voilà,
c'est en deux mots. Hein, univers sale. Évidemment. Ah oui, non, mais évidemment.
Tu l'avais de côté depuis longtemps, celle-là.
Ah, ben non, écoute, j'ai connu la grande époque Pascal Nègre, hein, donc niveau saleté, mon vieux, on peut se poser là, quand même.
Bah, on rappelle que Universal, c'est un peu à cause d'eux qu'on n'a pas de film solo Hulk, en fait. Hein,
ah, oui, c'est aussi pour ça que je
les droits de distribution et qu'apparemment, ils s'entendent pas très bien avec Marvel, donc ça n'aurait pas simplifié les rapports, ça aurait été peut-être même pire qu'avec la Fox, en fait. Mais bref.
C'est ça.
Non, donc, est-ce que toi, tu serais fan d'un rachat, le rachat, à la limite, on s'en fout, mais est-ce que derrière, tu voudrais que ce rachat, lance une vague de retour au bercail de personnages qui sont pour le moment détenus chez la Fox? On pense notamment aux X-Men, on pense aux Fantastic Four, on pense aussi à Deadpool, bien évidemment. Est-ce que alors, toi, ça te brancherait?
Alors, très clairement, pas avant la fin de la phase 4. Je pense qu'on a réellement besoin d'avoir 5-6 ans sans aucun film X-Men. Deadpool, il est intégrable comme ça, Deadpool.
Ouais, il est à part, en fait, donc ouais, c'est pas vraiment...
Il est à part,
ouais.
Mais je te jure...
C'est plus un exercice de style, en fait, Deadpool,
oui,
qu'autre chose.
Et puis ce serait tellement bien. Maintenant qu'il y a Cable à côté, ce serait drôle d'avoir Cable qui essaye de rentrer chez lui, il pète une porte dimensionnelle, il se retrouve dans le MCU... Et là, il tombe face à un jeune homme qui essaye de l'aider et qui le prend pour un méchant. Il s'appelle Peter Parker et il se prend pour son grand frère. Et là, tu vois tout le bordel que ça pourrait être. Évidemment, ce serait un Spider-Man rated R, donc ce serait pas possible. Mm-hmm. Mais ça pourrait être cool de le voir intervenir et de lui faire filer des conseils, tout l'inverse de Stark, en fait.
Ouais, tout à fait.
Tu vois, ce serait drôle. Après les X-Men, Logan, je pense qu'il serait de bon ton d'attendre pas mal d'années après la fin de Logan. Les X-Men, il y en a encore qui doivent sortir. Il y a encore des trucs en préparation et voilà quoi. Les Fantastic Four, on se rappelle du dernier, hein. À chaque fois, ça a été des fours absolus, hein. Donc, je pense qu'il vaut mieux les laisser dans leur carton pour l'instant aussi.
Je vais poser la question à Thomas, je voulais juste réagir à ça d'abord. Moi, personnellement, les X-Men, je m'en passerais volontiers, d'autant plus que, comme je le disais, les intégrer aujourd'hui, 10 ans après les débuts du MCU, il va vraiment falloir trouver une bonne idée scénaristique pour que ce soit organique et que ça se fasse pas rentrer aux chausse-pieds. En revanche, les Fantastic Four, c'est déjà beaucoup plus envisageable de les introduire sur le tard. Il n'y a pas cette notion de les mutants sont partout dans le monde, donc forcément tout le monde est au courant. Ça reste une famille de 4 personnes, donc c'est plus facile, on va dire, à intégrer dans le MCU. On sait que Marvel s'est manifestement laissé la porte ouverte, hein, avec la revente de la Stark Tower, hein. On pourrait aller tout à fait dans une direction Osborn, mais on pourrait aussi aller du côté du Baxter Building, donc tout est possible. Mais donc voilà, moi je voulais juste dire que les X-Men, je suis vraiment pas fan de l'idée, d'autant plus que je pense qu'on a fait le tour côté cinéma et que je vois vraiment pas ce qu'ils pourraient apporter au MCU, et au contraire, je trouverais que ça déforcerait un petit peu le MCU. En revanche, les Fantastic Four, et surtout toute leur galerie de bad guys, là je serais vachement plus fan fan. Thomas, je sais pas ce que t'en penses, toi, rachat de la Fox par Disney, est-ce que ça t'emballe ou pas du tout?
Bah, concernant les grosses licences comme les X-Men et les Fantastic Four, on le dit depuis très longtemps, et j'ai à peu près la même avis que toi au final, c'est que les X-Men, j'en ai un peu rien à foutre, ça me chauffe pas. Les Fantastic Four, ça me chauffe pas plus que ça non plus, mais c'est faisable. Et comme tu disais, moi, ce qui m'intéresse surtout, ça va être Kang, ça va être Doom, ça va être leur roster de bad guys, Annihilus, tout ça, la Negative Zone. Mais par contre, moi, ce qui m'intéresse surtout sur le rachat, le rapprochement entre Fox et Disney, c'est tout l'aspect télé, en fait, qui est pour moi, à mon sens, le gros du deal au final, parce qu'ils ont récupéré tous les assets qui vont leur permettre de faire des productions de télé pour Hulu, pour leur prochaine plateforme de streaming. Iger en a parlé encore il y a pas longtemps en disant, pour l'instant, nos plans ciné, côté ciné, le MCU, ils savent ce qu'ils vont faire, on n'est pas là pour les faire chier. Mais par contre, on a des idées de séries, on a des idées de choses à produire avec ce qu'on a récupéré.
Mais j'ai toujours trouvé que les X-Men se prêtaient mieux à la série, au format série télé.
C'est exactement ça. Il y a des rosters, il y a plein de teams différentes d'X-Men qui colleraient parfaitement pour des séries télé.
X-Force.
Ouais,
si vous avez vu Deadpool 2, vous allez comprendre.
Effectivement, c'est vrai que la X-Force, ça serait nickel. New Mutants aussi, qui apparemment, c'est un peu la merde, ça collerait parfaitement aussi.
Il y a Légion aussi, hein.
Il y a Légion, on oublie un peu souvent Légion, mais
Maintenant que c'est racheté, on peut quand même le dire que Légion est la meilleure série X-Men jamais faite, tout film, série, tout confondu.
Alors je suis pas d'accord dans l'étiquetage X-Men parce que c'est quand même assez différent. Moi, ça reste quand même la série animée des années 90, hein, qui pour moi est vraiment emblématique de ce qu'on peut faire de bien avec les X-Men.
C'est vrai.
Mais encore une fois, moi, les X-Men, je les préfère en série télé qu'en film parce que c'est plein de persos, il y a beaucoup de personnages, il y a des relations qui sont quand même complexes et que tu peux difficilement, comme on l'a vu dans les films, le développer sur un format d'une heure et demie, deux heures, et qui gagnerait justement à avoir des longues séries de 22 épisodes où tu peux vraiment créer du relationnel et à la limite que ce soit pas dans le MCU, comme ça on n'a pas de problème de cohérence ou de devoir les introduire forcément dans un univers qui existe déjà depuis 10 ans sans eux.
On dit ça, mais on a déjà un super exemple avec The Gifted. Personnellement, j'accroche pas trop. Mais objectivement, c'est une série qui est pas dégueulasse, qui rentre dans le thème un peu mutant X-Men, qui marche plutôt bien. Je crois qu'il y a une saison qui va encore débarquer et qui a été re-signée. Donc s'ils produisent des choses comme ça, que je sois pas public, je m'en fous, mais qu'en tout cas ça soit des choses un peu plus diverses, on va dire, qui collent plus avec les droits qu'ils ont récupérés, voilà. Et pas faire du forcing de licence dans un univers qui est déjà bien développé, bien exploité, qui a déjà ses idées en place. S'ils ont claqué 70 milliards pour dire, les gars, on va forcer du X-Men dans la MCU, vous allez voir, ça va être super cool. Ah, c'est bon, autant arrêter là, quoi.
Ouais.
Pour ajouter un truc par rapport au rachat, en fait, entre le rachat de la Fox par Disney, il y a plein, on en a parlé sur le Slack, il y a l'article du Wall Street Journal qui parle d'arrêt des films de genre de Disney.
Ah, putain.
C'est le chemtrail de notre,
milieu,
quoi. C'est hallucinant.
Non, mais surtout que ça va, comme je le disais sur Twitter aussi, ça va complètement à l'opposé de ce qu'a déclaré Bob Iger à plusieurs reprises, où il disait non, justement, mais des films comme Deadpool et tout, nous, on est super chaud pour continuer à les produire, et puis voilà. Et puis encore une fois, c'est pas parce qu'on a Disney au-dessus que tout va devenir gentil et PG-13, quoi. Enfin,
dans le pire des
cas,
même si tu veux rentrer dans le sujet du papier, si effectivement ils ont claqué 70 milliards pour récupérer des licences qu'ils vont pas exploiter,
c'est débile.
Mais déjà, d'une, au mieux, c'est débile, et au pire, ils les revendront à d'autres studios qui auront envie de faire les films.
Tout à fait.
C'est carrément gagnant pour les mecs qui attendent les films.
Et puis en plus, ça sous-entend la disparition de la Fox, qui est pas non plus un acquis, hein. Je veux dire, on a encore aucune confirmation aujourd'hui que quand Disney va racheter la Fox, ils vont dissoudre la Fox. C'est absolument pas certain.
C'est impossible de dissoudre 20th Century Fox.
C'est continuer justement à avoir, comme tu dis, un studio comme la Fox au sein de Disney qui va pouvoir se permettre de faire du rated R, de faire du Logan, du Deadpool.
Ils ont toute la logistique.
Ils vont faire exactement comme ils ont fait quand ils ont racheté tous les trucs de... comment il s'appelle ? J'ai oublié son nom, le mec de Star Wars. Putain, c'est chaud d'avoir
Industrial Light and Magic.
Lucasfilm, ils ont racheté Lucasfilm. Putain, George Lucas. Ils vont faire la même chose, ils vont pas dissoudre les entreprises, ils vont les mettre en succursale. Quand ils ont besoin de faire quelque chose, ils vont aller voir en disant, vous nous appartenez, faites-nous les assets, etc.
Les intéressait surtout, c'était les moyens de production. La Fox a les meilleurs avec, évidemment, Universal à côté. S'ils ont les deux, c'est les deux plus gros studios de production.
Ça rejoint ce que je disais par rapport à l'impression que j'ai, que c'est surtout pour la télé et le streaming qu'ils veulent le faire. C'est pour moi la grosse force de la Fox, c'est pas leur film, c'est la télé, en fait.
C'est
la production télé, en fait.
Ils ont une grosse prod télé, effectivement, c'est là-dessus qu'ils peuvent éventuellement miser. Ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure, donc cette volonté peut-être de plutôt partir vers des séries télé que vers des films X-Men pour changer un peu. Et personnellement, je trouve que ça y gagnerait beaucoup, ne fût-ce qu'en termes de développement des personnages, etc. Ça serait, à mon avis, plus intéressant. Bref, on va en rester là pour ce débat aujourd'hui. Si vous avez des avis à venir partager, n'hésitez pas à venir le faire dans le Trade Geek Zone. On serait ravis de discuter avec vous. Qu'est-ce que vous pensez du rachat de la Fox? Est-ce que vous êtes excité par l'éventuelle arrivée des X-Men et des Fantastic Four dans le MCU? Est-ce que vous êtes plutôt ciné ou plutôt télé? Bref, venez discuter avec nous de tout ça sur geekzone.fr et puis on va passer à la rubrique courrier.
Are you Tony Stank?
Yes, this is Tony Stank. You're in the right place. Thank you for that. Never dropping that, by the way.
Et c'est lors de notre dernière rubrique, la rubrique courrier. On a deux petites questions ce mois-ci. Une question de notre ami Chris Maditini, qui est un fervent auditeur des clairvoyants, qui nous demande sur Facebook, pensez-vous que les plans cosmiques du MCU soient remis en cause dû au licenciement de James Gunn et à l'arrivée des mutants et FF? Et si oui, quelles seraient les pistes que vous envisageriez si vous étiez Kevin Feige? Personnellement, je pense pas que les plans cosmiques sont remis en question. Je pense qu'ils sont déjà beaucoup trop loin, en fait, dans la mise en place de tout ça pour faire marche arrière. Encore une fois, que James Gunn soit là ou pas, ça changera pas grand chose puisque ça reste quand même Kevin Feige derrière, qui est le grand visionnaire et qui va donc probablement trouver quelqu'un pour remplacer Gunn au cas où Gunn ne pourrait pas revenir, au cas où Alan Horn lui dirait non, ça va pas être possible. Et puis l'arrivée des mutants et FF, on vient d'en parler, c'est pas encore un fait acquis, donc pour moi, à mon avis, pas de changement, d'autant plus que Kevin Feige a encore déclaré récemment dans une interview qu'ils allaient commencer à introduire les Eternals probablement dès Avengers 4, donc voilà, moi je suis assez curieux de voir ce que ça va donner, je suis pas trop inquiet, je pense qu'il y a suffisamment de gens qui sont à même de gérer l'univers cosmique de Marvel. Ne fût-ce que Taika Waititi par exemple, comme on le disait, hein, qui a bien montré qu'il pouvait gérer le ton cosmique de Marvel dans Ragnarok. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi personnellement je suis pas très inquiet. Je pense pas qu'ils vont changer comme ça leur fusil d'épaule juste parce que Gunn s'est fait têche.
Bah, la seule chose qui m'inquiète, ça va être du côté du cast, si effectivement ils...
Ouais, c'est ça, ouais. C'est la vraie conséquence.
La plus grosse conséquence, c'est la conséquence directe, c'est le cast. Après, pour les idées, la mise en place, le script, etc., c'est déjà pondu depuis des années, donc.
Et ça rejoint en fait la question suivante qui nous vient de Twitter et qui est signée Steve Prime Nova, qui nous dit que va donner la suite des gardiens, échec garanti ou encore un espoir. Voilà, on reste dans la même problématique, hein. On a bien vu qu'il y avait que la relève de James Gunn était assurée notamment via Taika Waititi, qu'il y a des gens qui sont capables de retranscrire le même type d'univers cosmique voulu par Marvel, donc je suis pas très inquiet. Ce qui effectivement est inquiétant, comme tu viens de le dire, c'est plutôt au niveau du casting. Même si Drax n'est pas un personnage absolument central, il fait partie de l'équilibre des Guardians, et s'il disparaît ou si on le recaste, hein, ce qui serait pire à mon sens, quoique ça avait bien marché pour Ruffalo, donc finalement pourquoi pas, j'en sais rien, mais enfin voilà, ça va quand même de ce côté là il y a eu des années, et puis en plus effectivement tout le monde avait oublié ce film d'Edward Norton, donc c'était pas trop grave. En revanche, les deux premiers Guardians, on les a pas vraiment oubliés, et c'est la seule vraie conséquence dangereuse que j'y vois, c'est effectivement si ça se répercute sur le cast, qui est quand même la partie visible de l'iceberg et qui est quand même celle qui donne son identité aux Guardians, quoi.
Bautista est quelqu'un de très très vocal et quelqu'un d'assez droit dans ses bottes. Je serais pas étonné qu'il arrive à convaincre peut-être d'autres membres du cast de partir en même temps que lui s'il part.
Ah, clairement.
Après, je serais à la place de notre bon Kevin Feige. Moi aussi, j'ai des belles casquettes Marvel. Je pense qu'on pourrait intégrer, on pourrait aller chercher un réalisateur mexicain qui lui aussi fait du film de genre, un certain Juan Pistolero. et je pense que le problème,
le nom, quoi.
Juan Pistolero avec un sombrero et une grosse moustache, personne ne verra que c'est lui.
Ce tweet m'avait tué.
Ouais, c'était quoi? C'était, je sais plus le nom exact, mais donc pour ceux qui n'ont pas suivi, il y a eu un tweet à un moment qui a tourné, un faux tweet sur Reddit où il y avait une annonce qui disait que Marvel venait d'engager un tout nouveau réalisateur inconnu pour reprendre la franchise des Guardians of the Galaxy, et la photo c'était évidemment James Gunn avec une grande moustache et un nom hispanique.
Je crois que c'était Jimmy Gunno, un truc comme ça.
Jimmy Gunno quelque chose. On vous linkera le truc parce que c'était vraiment effectivement très drôle.
Mais c'est tout ce qu'on espère en fait. C'est bête, hein, mais
ça va se décider dans les semaines qui viennent. Je pense que ça va aller assez vite parce que comme je le disais, ils étaient déjà en train de lancer la machine Guardians 3, donc il va falloir être très très réactif. objectif.
Et on sait que Feige est pas content.
Et Feige est clairement pas content vu qu'il est en train de négocier avec Horn pour faire revenir Gunn. Donc on espère qu'il va réussir à peser de ses 15 milliards au box-office sur Alan Horn et pour lui faire comprendre que si tu vas faire revenir Gunn et tu vas t'excuser, ça va être très bien. Mais je doute parce que c'est quand même rare que Disney fasse marche arrière. Mais encore une fois, là, ils ont quand même dans la balance tout ce bad buzz qui est en train de tourner autour du nom et qui est pas vraiment génial. Donc on verra ce que ça donne. Là aussi, on va attendre le développement dans les prochaines semaines. On devrait y voir un petit peu plus clair. Et on va terminer cette section courrier en faisant un petit bisou à Marco qui nous demandait de lui faire un petit bisou. Donc voilà, c'est fait. Bisous Marco.
Et apparemment, et un bisou à 300 Alex. 300 km en bagnole.
Écoutant. Donc c'est une excellente idée.
Et un bisou à Alexandre puisqu'il nous a pas écouté le mois dernier vu qu'il y avait pas d'épisode. Il était très malheureux.
Oh.
Et là, il est à la Gamescom et il souffre et il nous écoutera en rentrant, je pense. Donc bisous Alex. Tu vois, je t'avais promis, on a pensé à toi.
Et c'est la fin de ce 49e épisode des Clairvoyants. On est content d'être de retour. On espère que cet épisode, peut-être un petit peu plus court, vous aura plu. On se retrouve, comme prévu, le mois prochain pour un nouvel épisode. Ce sera le 50e déjà. On vous rappelle en attendant qu'il y a un thread Geekzone de plus d'un millier de posts dédié entièrement au MCU. Et puis sinon, n'hésitez pas à venir réagir aussi dans les threads liés aux différents épisodes du podcast. Il y a des dossiers Marvel. Il y a le dossier Ant-Man and the Wasp qui devrait sortir, si pas cette semaine, ce sera la semaine prochaine. On essaie de reprendre un petit peu le travail là sur le site qui a été mis un petit peu en pause pendant les vacances pour diverses raisons sur lesquelles on ne reviendra plus. On vous rappelle aussi que si vous voulez nous soutenir, vous pouvez le faire via le Patreon Geekzone. On rappelle aussi qu'il y a un bouquin dans les coulisses du Marvel Cinematic Universe qui est disponible chez nos amis de Third Edition dans la collection Force. Je pense que j'ai fait le tour, hein, les gars. Vous vouliez rajouter un truc?
Le Discord, à la limite.
Passez sur le Discord aussi. On a un Discord qui était auparavant un Discord clairvoyant qui est devenu un Discord série téléfilm dans lequel on parle beaucoup de Marvel, évidemment, comme vous en douter. Et puis donc on se retrouve le mois prochain, les gars.
Et oui, ça sera la rentrée.
Ça sera le 50e épisode des Clairvoyants. Allez, je vous fais des bisous. Au mois prochain. Ciao.
Ciao, ciao.
Bisous tout le monde.
Ciao.
Putain, j'ai l'image du Juan Pistolero.
Non, mais je te jure, je le vois avec le sombrero, la grosse moustache, il ressemble à Juan Pistolero.
C'est encore mieux que ce qu'ils avaient mis sur le tweet, en fait. Je trouve que ça marche encore mieux.
Ça marche encore mieux. James Gunn, Juan Pistolero, et le mec, il se pointe avec un gros poncho.
El Guardians de la Galaxia.
Un podcast signé Faskill. Faskill.com.
Des actus, des dossiers, des tutos, des podcasts, Geekzone, c'est le site de la culture geek sous toutes ses formes. Et aussi une communauté en or. Retrouvez-nous sur geekzone.fr et soutenez-nous via Patreon. Geekzone.fr, par des geeks, pour des geeks.
Je t'explique pas comment parle dans un micro, j'imagine que tu sais.
Pas trop près, pas trop près, comme ça.
Comme ça, c'est très bien.
Bon.
Chin.
La tienne.
En tout cas, merci d'être venu.
C'est cool. Mais c'est un plaisir.
Dans le canap, c'est votre rendez-vous mensuel sur Geekzone, un rendez-vous durant lequel Faskil s'entretient avec un invité, sans fil conducteur, sans questions préparées, mais avec des bières. Pendant environ une heure, posé au calme dans un confortable canapé, on y parle de son parcours, de son actu et parfois aussi du sens de la vie. Dans le canap alias DLC, c'est tous les mois exclusivement sur geekzone.fr.
En fait, il faudrait que tu sois ton invité un jour. Ce serait marrant que t'aies des gens proches de toi qui te connaissent bien, qui fassent la même chose. Et les gens, ils kifferaient.